Interview.
2 jours.
Bonjour, ici Erdiwa pour l'interview, émission que vous écoutez sur les ondes FM en 107.5 et sur le 101.7 à Luc Andiwa. L'émission est aussi mise en podcast sur le site internet www.rdwa.fr. Au studio aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Sylvain Thévenet. Bonjour.
Bonjour.
Sylvain Thévenet, vous êtes ici pour nous parler des fermes paysannes et sauvages, donc une organisation en quelque sorte qui propose quoi précisément?
Alors, les fermes paysannes et sauvages, c'est une association qui réunit des fermes de la Drôme principalement, mais un petit peu aussi d'Ardèche, qui se sont rassemblées autour de l'idée... De proposer, ou en tout cas, de se poser la question de la vie sauvage sur les fermes et de la place qu'on laissait à la vie sauvage sur les fermes et dans notre activité agricole. Donc, on doit être une petite vingtaine de fermes maintenant dans la sauce. Y a un peu de tout en termes de production. Moi, je suis vigneron, mais... mais il y a d'autres, il y a une autre ferme qui fait du vin aussi. Après, il y a pas mal de maraîchers, des gens qui sont en polyculture, élevage aussi. Et l'idée, c'est de se poser ensemble la question de la biodiversité et de la place qu'on laisse aux sauvages sur nos fermes, de plus être juste un acteur un peu prédateur sur l'environnement, mais participer à sa régénération et à trouver des équilibres.
De conjuguer en quelque sorte l'agriculture et la nature.
Oui, ouais, c'est un peu ça. Au début, la ferme, elle s'est montée. La ferme qui est à l'origine du projet, c'est la ferme du Grand Laval de Elsa et Sébastien Blache. Sébastien, il a une formation de naturaliste au départ.
Elle est située où, cette ferme?
Elle est à Montélier, plaine de Valence. Donc c'est un carré qui était dédié au maïs et aux grandes cultures d'une vingtaine d'hectares qu'il a repris, c'était des terres familiales qui étaient exploitées par son oncle, je crois, qu'il a repris. Et il en a fait une ferme de polyculture très diversifiée, avec une vision de naturaliste dessus que lui, il avait parce qu'il a été, employé salarié à la LPO pendant des années. Et donc, en disant, je mets tous les curseurs de biodiversité et d'accueil du sauvage au maximum sur mes parcelles. Donc, c'est un ornithologue au départ. Donc, il a fait beaucoup d'efforts au départ sur les nichoirs, notamment, en mettant des grosses densités de nichoirs pour beaucoup, beaucoup d'espèces différentes. Et puis aussi en diversifiant ses cultures, en faisant en mettant des haies, en posant des tas de pierres ou de ronces, en tous les cas, en proposant de l'habitat sur ces parcelles pour la vie sauvage. Et c'est la rencontre de Sébastien Blache avec Baptiste Morisot, qui lui a une vision plus philosophe, qui est philosophe de formation et qui a émergé l'idée ce qui est fait sur cette ferme-là et cette approche-là de se poser les questions différemment de la place de la nature sur les fermes. Est-ce que on peut pas proposer ça à d'autres fermes autour de nous? Voilà.
Je m'arrête un petit peu là-dessus. Ce territoire, ce terrain, à l'origine était issu de l'agriculture intensive,
oui,
en quelque
tout
sorte.
À fait, ouais. Ouais.
Par la suite, il a été décidé par ce propriétaire d'ouvrir ce terrain à la nature. Ouais. C'était il y a combien d'années? Et aujourd'hui, qu'en est-il?
Je crois que son installation, elle a une quinzaine d'années maintenant. Et aujourd'hui, qu'en est-il? Aujourd'hui, c'est une ferme qui est un peu polyculture élevage. Donc, il a des poules pondeuses, il a des brebis, il fait de l'arboriculture sur 4-5 hectares, dans lesquels viennent se nourrir poules et brebis. Il a aussi un peu de grande culture, mais sur des surfaces assez limitées, avec des rotations, avec il fait des légumes secs, de la céréale. Donc c'est très diversifié. Et après, en termes d'accueil du vivant, je pense qu'il faudra que vous veniez les interviewer, eux, parce que c'est super intéressant. Mais ils sont en train de faire un inventaire complet du vivant sur la ferme, très poussé. Lui, il a déjà vu revenir plein d'espèces d'oiseaux entre le moment où il s'est installé et maintenant. Parce qu'il a fait des mares partout, parce qu'il a fait plein d'aménagements qui font que il s'y plaise. Et donc c'est quand même une explosion en termes de nombre d'habitants, on va dire. Mais ça va du champignon à la limace, en passant par l'oiseau, le petit mammifère. L'idée, c'est d'arriver à faire un inventaire complet de tout ce qu'il y a sur la ferme. Alors sur ferme paysanne et sauvage, on n'est pas tout à fait là-dedans, parce qu'on est plus dans une démarche de dire, comment... chaque ferme qui rentre dans le réseau, dans l'association, comment on l'accompagne, elle, sur les défis qu'elle a et sur, parce qu'on ne part pas tous de la même chose. Il y en a qui partent comme Sébastien Blache à la ferme du Grand Laval et Elsa, d'une feuille blanche quasiment, c'est-à-dire d'un endroit où en gros le niveau de biodiversité était très bas parce que c'était des grandes cultures avec plus d'arbres, plus de haies, etc. Et donc qui ont tout à faire. Mais il y a le truc assez trippant de se dire, chaque fois qu'on fait quelque chose, on ramène du vivant sur nos parcelles. Et puis il y en a qui partent de situations, et moi je suis un peu plus dans ce cas-là, où on est plus sur des endroits où les parcelles sont plus morcelées, où il y a des ravins dans lesquels il y a du sauvage qui est présent, où il y a des parcelles qui ont été à l'abandon avec la déprise agricole. Et donc, on est dans des milieux où la question, on se la pose différemment. C'est, quand je vais remettre en culture une parcelle qui n'était pas en culture pendant 30 ans, quel impact ça a? Qu'est-ce que je vais toucher? Qu'est-ce que je vais abîmer? Comment, moi, je fais ma place d'agriculteur au milieu de ça sans tout foutre en l'air et en gardant les dynamiques qui sont présentes, qui peuvent même être intéressantes pour ma culture? L'idée, c'est l'idée aussi de la biodiversité, c'est il y a un axe qui est aussi de se dire, cette biodiversité, elle sert la production dans la mesure où elle va limiter les ravageurs parce que va y avoir autour des parcelles des populations de prédateurs pour ces ravageurs qui seront présents, etc. Donc il y a une idée un peu utilitariste de cette biodiversité. Mais c'est aussi se poser la question du vivant en tant que tel, en se disant, moi, je fais partie de l'ensemble. C'est pour ça qu'on distingue un peu nature et vivant, parce que souvent, avec le mot nature, il y a quelque chose qu'on sépare un peu de l'homme. Là, l'idée, c'est que on fasse corps avec et qu'on fasse partie de l'écosystème. Et comme on a une activité qui peut être très impactante, si on ne fait pas gaffe, c'est de se poser la question dans nos itinéraires culturaux, où est-ce que c'est important de laisser de l'herbe? Où est-ce que c'est important de ne pas se poser la question de faire propre? Parce que faire propre, c'est un mot qu'on entend beaucoup en agriculture, mais ça veut dire désinguer tout ce qu'il y a au sol ou tout ce qu'il y a sur les plantes pour être tranquille. Donc l'idée, c'est plutôt de se poser la question, comment on avance pour garder... Pour que notre activité, elle fasse partie de l'écosystème et elle participe à son amélioration, on va dire.
Globalement, contrairement aux idées reçues sur la faune qui peut saccager les cultures, est-ce que c'est le cas dans cette disposition, dans ce dispositif?
Je pense que chaque ferme est très différente. Moi, je vais vous parler de mon cas. Moi, je suis à Saillant, je suis vigneron à Saillant. Donc j'ai principalement de la vigne, j'ai un tout petit peu de plantes aromatiques. Et puis j'ai planté des fruitiers et des oliviers depuis l'an dernier, pour justement avoir de la diversité. Dans le Diwa, on a très peu de problématiques de ravageurs sur les cultures, ravageurs insectes, je parle. Parce que, sur la vigne en tous les cas, parce que le terroir est assez morcelé Et donc, y a peu d'un, pour que l'insecte, pour que le ver de la grappe, qui est un petit papillon qui va pondre sur les grappes et faire un petit ver qui va abîmer les grappes et faire rentrer la pourriture dans les grappes, se développe et qu'il soit vraiment impactant, il faut qu'il n'y ait pas de prédateurs pour lui. Et donc, ça veut dire souvent, c'est des vers de la grappe qui font des gros dégâts en Côte du Rhône ou dans le Bordelais, dans des grosses régions viticoles où les vignes sont à touche-touche sur des hectares et des hectares. Là, entre chaque parcelle, eh ben, finalement, il y a une haie, il y a un bout de ravin, il y a une autre culture. C'est assez morcelé et ça fait que ces vers de la grappe, ils prolifèrent pas. Ils sont là, ils sont présents. Il y a des comptages chaque année qui sont faits pour savoir les seuils, etc. Mais en fait, on est toujours en dessous des seuils qui font que l'agriculture conventionnelle nous dirait de traiter avec des pesticides. Donc ça, on est déjà dans des équilibres qu'il faut s'évertuer à garder, mais qui existent déjà. Donc là, on est plutôt dans l'idée de préserver ces équilibres, notamment en mettant des nichoirs à messanges dans les vignes ou des abris à chauves-souris, parce que c'est des prédateurs naturels de ce petit papillon. Ils vont venir manger les chenilles et les petits papillons en l'air. Et donc sur ces ravageurs-là, on n'a pas de problématique. On a des problématiques des fois sur des ravageurs plus gros, style chevreuil ou sanglier. Donc les parcelles qui sont un peu hauts, en altitude, un peu isolées, près des bois, etc. Et ben, au printemps, on peut avoir des sangliers, des chevreuils ou des chamois qui viennent et qui ont un impact sur les cultures. Donc là, c'est à nous de nous protéger en mettant un fil, en patrouillant un peu sur les parcelles, etc. Bon, le chevreuil, ça n'a pas un impact énorme, mais ça peut avoir quand même un petit impact. Et le sanglier, avant vendange, quand le raisin est mûr, le sanglier peut avoir un gros impact. Et s'il a choisi ta vigne et que le raisin est bon et que tu ne fais pas gaffe, il peut passer tous les jours prendre sa dîme. Et donc là, ça peut avoir un gros impact. En général, on parque les parcelles pour éviter ça. Après, il y a un fait nouveau dans le Diwa depuis quelques années, c'est le loup. Et le loup, il a une vraie action de prédation sur le sanglier. Et donc, dans les parcelles, dans les communes où il est très présent, eh ben, en fait, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup moins de dégâts sur les vignes. Sans doute parce que la population de sangliers baisse un peu, diminue. Mais aussi sans doute parce que ça change les comportements des sangliers et qu'ils ne restent pas au même endroit, qu'il est sans doute beaucoup plus mobile. Alors, s'il passe une fois dans la vigne et il mange 3 grappes, ce n'est pas grave. Ce qui est grave, c'est quand il restait dans le fourré à 25 mètres de la vigne et qu'il sortait tous les soirs pour faire son repas. Je pense qu'avec le loup, mais c'est un truc qui a étudié. Et moi, j'adorerais qu'il y ait des gens viennent faire des vraies études scientifiques là-dessus. Je pense qu'avec le loup, c'est le point positif, c'est que ces populations sauvages-là, elles sont beaucoup plus mobiles et ça rebat un peu les cartes. Alors, ça pose d'autres problèmes, notamment vis-à-vis de l'élevage, mais voilà, il y a aussi du pour et du contre, quoi. Et en tout cas, il y a des actions positives du loup, je pense, sur les cultures.
L'association regroupe une vingtaine de
fermes. Alors ouais, j'ai pas relu avant de partir le nombre qu'on était, mais ça doit être à peu près ça.
Une vingtaine environ. Et donc, qu'est-ce que cette association permet justement à ces exploitants? Qu'est-ce qui se décide dans ces réunions, dans cette association?
Alors, comment on fonctionne? On a plusieurs types d'actions. L'idée, c'est d'accompagner chaque ferme dans ses projets et puis aussi de promouvoir un peu, quoi, de promouvoir. De parler aussi un peu à l'extérieur de ce qu'on fait, d'essayer d'expliquer ce qu'on fait, et soit pour avoir plus de gens dans l'association, mais aussi pour que les gens s'emparent de ça à leur niveau et que les autres agriculteurs s'emparent de ces problématiques à leur niveau et qu'on participe un peu à... on va dire, au sujet et au développement de cette idée-là, qu'en fait, on fait partie du système et qu'on ne doit pas juste être un prédateur pour le système agricole. Et donc, on a plusieurs modes de fonctionnement. Chaque année, on essaye de se former, d'avoir une formation de naturaliste, et donc de se former à cette culture naturaliste. Et donc, il y a l'idée d'apprendre ensemble. Alors, il y a des gens qui sont très calés au sein de l'association. Il y a des gens qui ont des vrais cursus de naturaliste, où c'est une passion depuis des années, et qui sont très au fait de ça. Il y a des gens qui sont juste passionnés, mais comme un gentil amateur, intéressé par la nature et par le vivant, mais qui n'ont pas vraiment de connaissances fines. Et donc l'idée, c'est de régulièrement rencontrer des chercheurs, des naturalistes, pour avoir une meilleure compréhension de nos fermes et de la nature qui, qui s'y épanouit. Et donc, chaque année, on détermine un thème qu'on creuse un peu plus. Donc, l'an dernier, notre thème, c'était autour des reptiles et de comment on pouvait accueillir les reptiles et les lézards sur les fermes. L'année d'avant, c'était autour des bornes enherbées et de se poser la question de comment on fauche, à quel moment, qu'est-ce qu'on laisse sur les parcelles, la question du faire propre ou pas propre, c'était un peu là-dedans. Là, on est en train de déterminer pour cette année la question du thème de cette année, qui peut-être va tourner autour de l'eau, ou bien il y avait d'autres velléités de se poser la question des frelons et de la place qu'avaient les frelons dans notre écosystème. Il y a plusieurs propositions, on n'a pas encore décidé. Donc chaque année, on a un thème et on fait une ou deux rencontres autour de ce thème-là. Et ça permet un peu à chacun de se poser la question dans ses fermes de comment j'avance sur ces sujets-là. Et puis après, on essaye... Il y a une part importante qui est faite pour l'accueil des nouvelles fermes. Donc chaque nouvelle ferme qui rentre, on fait une journée complète sur la ferme où on visite la ferme, on comprend comment le gars produit, comment elle est intégrée dans son environnement et quels sont les défis qu'il y a au sein de la ferme pour rentrer dans cette démarche-là. Et souvent, c'est des gens qui sont déjà dans cette démarche-là, de se poser la question de leur place dans le vivant. Mais voilà, c'est l'occasion de se poser tous la question ensemble là-dessus et puis tous de gagner en compétences et de se confronter à des sujets qu'on n'a pas parce que c'est d'autres cultures ou d'autres environnements.
Je revenais sur cette démarche. Tout à l'heure, vous parliez de la ferme du Grand Laval, qui initialement était un terrain agricole intensif, mm-hmm. avec l'utilisation de la chimie qui en découlait. Quelles traces, avec le temps, ces engrais, ces fertilisants ont-ils laissé dans la terre ? Et est-ce que vous avez trouvé peut-être une alternative pour pouvoir la régénérer ?
Alors, moi, je serais bien mal de savoir quelles traces chimiques, etc. Peut-être que Sébastien et Elsa font des analyses, savent exactement ce qu'il en est. Après, ce dont on s'aperçoit quand on passe du conventionnel au bio, ou en tout cas quand on passe à des pratiques vraiment agroécologiques et biologiques, la nature et le vivant a une puissance pour reprendre place qui est assez folle et qui est assez impressionnante, et que très vite en fait on peut revenir dans des dynamiques qui laissent beaucoup de place à la vie, quoi. Ça, c'est le côté super positif, qu'on s'aperçoit que dès qu'en fait on arrête des pratiques qui sont délétères, eh ben, y a une explosion de vie. Alors, ce n'est pas forcément une explosion de production, hein, parce que le sauvage, le vivant, son but, ce n'est pas de nous nourrir. Mais en tous les cas, il y a une vraie explosion de vie. Et dès qu'on fait des aménagements, et notamment par le sujet des mares, par exemple... Si sur des parcelles on crée des mares, et ben en une, deux, trois années, c'est une explosion de vie sur ces mares et qui sont bénéfiques sur les parcelles autour, etc. Et donc, y a une vraie dynamique. C'est un truc super positif et qui rend très optimiste. C'est-à-dire que si jamais on avait des vraies volontés politiques de changer les choses et la manière de faire, en fait, on peut regagner très vite en biodiversité. Après, y a aussi les techniques qui sont mises en place au niveau agricole. C'est-à-dire qu'on essaye au maximum d'être dans des techniques d'agroécologie où on garde les sols couverts, où on fait des engrais verts, où on est plus dans des systèmes où on essaye de rendre le système le plus divers et le plus efficient possible en laissant se développer, plutôt qu'en essayant d'éliminer les intrus ou les mauvaises herbes. Voilà. L'idée, c'est plus de se dire que ce foisonnement-là, que le foisonnement du vivant, eh ben, il aggrade l'agro-système plutôt qu'il le dégrade.
Le potager, par exemple, maraîcher, est-ce que les plantes cultivées sont parmi celles de la nature ?
Alors, moi, je ne suis pas maraîcher, mais je vais essayer de parler pour mes collègues maraîchers. D'une certaine manière, à chaque fois qu'on cultive des plantes, elles viennent de la nature. C'est pas des plantes OGM. Après, je pense que les collègues qui sont en maraîchage, une grande chance du maraîchage, c'est qu'il y a une grande diversité de cultures. Donc, on est tout de suite déjà dans quelque chose où cette diversité, eh ben, elle fait qu'il y a une diversité d'insectes aussi derrière, une diversité de prédateurs, et qu'on peut arriver à des équilibres qui sont chouettes. Alors ça, je ne sais pas exactement, eux, comment ils choisissent leur variété, mais il y a une grande part dans ces potagers bio. Souvent, on revient à des variétés anciennes ou plus rustiques qui portent en elles une part de résistance aussi aux ravageurs ou aux champignons. Et qui sont peut-être des fois moins productives, mais souvent plus goûteuses et un peu plus résistantes aux aléas et qui ont besoin d'être moins accompagnées par de la chimie que de manière classique, quoi, sur une exploitation conventionnelle.
Vous-même êtes viticulteur, entre autres. Est-ce qu'on peut noter une différence entre votre parcelle et celle d'un viticulteur conventionnel ?
Alors, on peut noter à l'œil, on peut voir... chez moi, il y a plus d'herbes. Je fais des engrais verts systématiques. Donc, en gros, à l'automne, je sème des légumineuses et des céréales dans mes rangs de vignes que je vais laisser pousser tout l'hiver jusqu'au milieu du printemps. Et au printemps, quand il va devenir assez haut, là, presque à 80 cm de hauteur, je vais les rouler. Et donc... il va y avoir un mulch qui va se développer au sol, qui va sécher au sol, mais mon sol va rester couvert toute la saison. Même s'il fait très chaud, il y aura toujours un couvert végétal qui sera en partie sec. Donc ça peut être des différences. Après, est-ce qu'on voit des vraies différences entre moi, ce que je fais, et ce que je fais à un collègue qui est en bio, qui n'est pas dans une démarche paysanne et sauvage, par exemple ? Ouais, c'est plus un œil d'expert à ce moment-là où on va s'apercevoir des nichoirs qui ont été posés, de la démarche générale. Mais après, moi, je suis convaincu que mettre ces techniques en place sur le long terme, notamment l'utilisation des engrais verts, du non-travail du sol, essayer de baisser au maximum les traitements, parce qu'en bio, on traite quand même la vigne avec du cuivre et du soufre. Et donc, on se pose beaucoup de questions sur baisser ces doses-là qui ont un impact... Le soufre, ça n'a pas un impact toxique sur le milieu parce que c'est assipiné par le milieu, mais par contre le cuivre à haute dose, ça se concentre dans les sols et c'est mauvais pour la vie du sol. Donc il y a toute une démarche, une réflexion qu'on a aussi, quoi que j'ai moi, avec d'autres collègues viticulteurs du DIWA, sur la réduction des doses de cuivre et comment on peut l'associer à des engrais ou à des tés de compost ou à des purins de plantes pour arriver à baisser les doses. Donc ça marche assez bien. On arrive à passer avec des doses très basses de cuivre maintenant. Donc c'est un ensemble de choses où on essaye d'avancer. C'est aussi des parcelles dans lesquelles on essaye de laisser des arbres, on essaye de laisser des haies. Par rapport à une parcelle vraiment conventionnelle, désherbée aux trois quarts chimiquement, souvent, la différence se note en termes de quantité d'insectes présents, de quantité d'oiseaux présents sur les parcelles.
Vous parliez de la connaissance aussi de la nature, de la flore, de la faune. Pour ça, au sein de cette association, des personnes sont plutôt éclairées. Ouais. Est-ce que vous travaillez aussi avec des organismes ou des associations qui sont spécialisées dans ce domaine ?
On est très proche de la LPO. Et de plus en plus proche maintenant. On est en train de voir pour avoir une convention avec eux. Et donc comme ça, ils nous accompagnent sur nos projets. Et puis nous aussi, on vient en soutien à ce qu'ils font. Et donc ça, c'est des chouettes échanges parce que voilà, eux, ils ont une vision de naturaliste très poussée et avec des super connaissances. Et souvent, et des fois, il y a ces deux univers, les naturalistes et les agriculteurs, on va dire, et les paysans. Et que et Les naturalistes, souvent, ils ont une vision qui est proche de... On va conserver le milieu, on va essayer de toucher le moins possible, mais de laisser la place à des espèces rares, etc. Et les agriculteurs, on a une vision souvent d'exploitation du milieu. Et de faire réunir les deux, finalement, et de se faire parler ces deux entités, et ben, ça donne qu'en fait... Eh ben, nous, on est peut-être plus sensibles à des aspects de conservation, mais eux, ils sont peut-être plus sensibles aussi à la dynamique qu'il peut y avoir sur nos parcelles agricoles, où en fait, on est souvent en train de venir perturber le bon fonctionnement de la nature, quoi. Et donc, l'idée, c'est ben, que l'action qu'on fait, la perturbation qu'on y apporte, eh ben, en fait, elle participe, qu'on soit conscient de ce que c'est, et que ça participe aussi à la création d'un agro-écosystème équilibré, divers. Ouais, le rapport avec ces assos, il est vachement important. Et puis, il nous apporte beaucoup en termes de connaissances.
Je ne sais pas si vous l'aviez précisé au départ, vous-même êtes exploitant depuis combien d'années? Et de là aussi, à savoir, quel est votre regard sur justement la transformation de la nature avec ce réchauffement climatique? Est-ce que vous le constatez de visu? Et pour ça, entre vous et vos collègues, est-ce qu'il y a des réflexions aussi, des comparaisons dans ce domaine?
Ouais. Alors... Pour revenir à mon parcours, moi je me suis installé en 2011 à Saillant, voilà. Et donc j'ai une dizaine d'hectares de vignes. J'ai encore une grosse moitié des vignes qui vont un peu plus, presque 7 hectares qui vont à la coopérative et donc qui font de la clairette bio pour Chaillance. Et puis l'autre partie, 3 hectares à peu près, que je vinifie moi en bouteille et que je vends sous le nom de la ferme Saint-Maurice. Et donc ça, c'est mon activité. Pour ce qui est du devenir de l'agriculture, moi, j'ai vu depuis 2011 jusqu'à maintenant, en fait, ça a vachement changé. Jusqu'en 2016, en fait, j'ai une expérience qui n'est pas très longue, hein, ça fait une dizaine d'années. Mais les 5-6 premières années, voilà, il y avait des aléas climatiques, un peu, choses comme ça, mais pas de gros coups. Et c'était plutôt des années faciles. Et en fait, depuis 2017, où on a eu un gros coup de gel, où 80% des vignes d'Idiwa avaient gelé. Depuis ça, là, eh ben, chaque année, on a un événement climatique extraordinaire, quoi, très impactant. Entre les gels de printemps, les canicules, les orages de fin de saison, etc. Chaque année, il y a eu une année compliquée et une année plus un peu la grêle, etc. Chaque année est atypique et puis est fortement impactante sur le milieu, quoi. Et donc, oui, ça pose vraiment des questions. Moi, une grosse question que j'ai et je pense que se pose plein de paysans et même hors de notre assoce, hein, c'est de se dire, voilà, dans 15 ans, à quoi ressemblera ma ferme? Et donc, il y a une partie de la réponse, c'est de se diversifier. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai planté des oliviers, par exemple. L'an dernier, j'ai planté 200 oliviers dans une vigne. Que j'ai planté aussi un petit verger en me disant, voilà, je ne mets pas tous mes œufs dans le même panier, je diversifie mon agro-écosystème, quoi, et donc j'en fais quelque chose de plus résilient. Il y a les pratiques culturelles dont je vous ai parlé, les engrais verts, choses comme ça, c'est aussi des pratiques qui ont tendance à améliorer la vie du sol, à améliorer la captation de l'eau, à améliorer la fertilité, et donc qui tendent à rendre le système plus résilient face à ces impacts climatiques forts. Un gros enjeu, ça va être l'eau. Alors nous, on est sur des cultures non irriguées, mais donc il faut planter des plantes qui résistent à l'eau. Les collègues qui sont sur des cultures irriguées, ben, l'enjeu, c'est l'accès à l'eau et comment il est réparti entre les cultures. Est-ce qu'on a des mêmes droits à l'eau quand on est maraîcher, quand on a un hectare de maraîchage et qu'on fait vivre son territoire, que quand on est producteur de maïs pour le bétail et qu'on va exporter ce maïs à l'international? Et bien, peut-être qu'il faut se poser la question. Donc il y a des gros enjeux qui vont se poser, qui sont en train d'émerger et qui sont compliqués. Et après, il y a aussi toute l'action sur la biodiversité. Il y a des choses qui sont vachement positives, le type de démarche qu'on a, nous, et que je pense plein de paysans et paysannes se posent. Après, moi, la chose qui me rend un peu pessimiste et un peu sur la partie biodiversité, c'est qu'en fait, on est face à un espèce d'empoisonnement du milieu par la chimie. Limite pas à la parcelle. C'est-à-dire que la parcelle qui a été traitée chimiquement avec un insecticide, l'insecticide, il ne reste pas sur la parcelle. Il est partout après. Et donc, et partout, et ce n'est pas juste la parcelle d'à côté, c'est à plusieurs kilomètres. Il y a vraiment une intoxication du milieu. Et quand on voit que la quantité d'insectes en Allemagne, ils ont fait des études, là, il y a 5 ou 6 ans, où depuis 2000, la quantité en nombre d'insectes, hein, en biomasse, pas en variété, mais la quantité d'insectes a diminué de 80% dans des zones agricoles allemandes. Et ça veut dire qu'en fait, on est en train de dézinguer le truc complet, quoi. Et ça, c'est dû au fait qu'il y a une espèce de... Il y a de pollution générale due à la chimie, et en grosse partie à la chimie utilisée dans l'agriculture, qui fait que, en fait, tant qu'il n'y aura pas des mesures drastiques prises là-dessus, et qu'on n'aura pas, par exemple, l'exemple le plus flagrant, c'est les néonicotinoïdes. On sait que c'est dégueulasse. On sait que ça dézingue tout. On sait que c'est délétère pour les abeilles domestiques, mais aussi les abeilles sauvages. On l'interdit. Et puis finalement, sur une culture, on revient dessus. Donc il y a de la... Et l'utilisation des néonicotinoïdes sur la betterave, dans les zones betteravières, ça ne se limite pas à la zone betteravière. Potentiellement, ça peut faire des centaines de kilomètres, cette molécule. Et ben voilà, là, il y a un truc où nous, en tant que paysans, on n'a pas la main. Et où c'est la société qui doit prendre la main là-dessus. Et donc je pense que y a un gros travail à faire là-dessus qui est très important.
Quand j'étais jeune et qu'on roulait sur de longues distances, les pare-brises étaient complètement remplis d'insectes. Ouais. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui ou est-ce que ça reviendrait un petit peu?
Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Moi, j'ai un autre exemple aussi. Gamin, on avait des faucheuses. Je ne sais pas si vous vous rappelez, ces grandes araignées là avec des très fines pattes. Où on s'amusait sadiquement à enlever des pattes pour voir si ça marchait avec trois pattes ou avec... Et ces faucheuses-là, je sais pas, à chaque fois qu'on se roulait dans un champ, dans les hautes herbes, on en trouvait. Mes enfants, qui sont à la campagne avec moi, etc., ils ne savent pas ce que c'est. On n'en voit plus. Et des exemples comme ça, si on va un peu finement, en fait, il y en a plein. Mais sauf que c'est des insectes qui ne servent à rien, quoi, agronomiquement ou même pour le milieu. On ne sait pas en fait, le rôle qu'il a, cet insecte-là, et quelle contribution il apporte. Et comme on est dans un système où en fait, il faut que tout ait une utilité, s'il disparaît, c'est pas bien grave, on se pose pas la question. Alors que je pense, et on pense nous, que c'est très grave, et que on a besoin de cette diversité, on a besoin d'insectes inutiles, et on a besoin qu'ils soient en nombre, et qu'ils soient présents, etc., pour qu'il y ait un système qui soit résilient, qui soit capable de supporter. Il y a 5-6 ans, là, où on a eu l'invasion de la pyrale, par exemple. C'est pas anodin, ces choses-là, en fait. OK, c'est un insecte qui vient de loin, qui trouve à manger, mais si lui, il arrive à se développer comme ça, de manière explosive, c'est aussi qu'on est dans des milieux qui sont en peine, qui sont un peu malades. Sans prédation, et qui sont abîmés. Et si lui, il arrive à prendre toute cette place-là, c'est pas que c'est un super prédateur du buis, sans doute que c'est un super prédateur du buis, mais c'est pas que ça, c'est aussi qu'il arrive dans un milieu qui est dégradé et où lui il trouve la place que les autres occupent plus, quoi. Et on a ce type de choses là, plus le milieu se dégrade et plus on risque de rentrer dans des dynamiques comme ça, type pandémie, qui sont délétères pour l'homme, mais aussi pour le vivant, quoi.
Pour retrouver cette manière de cultiver, qui est plutôt ancienne, hein, j'imagine, à quelle référence faites-vous pour vous lancer dans une exploitation? Est-ce que vous avez le savoir d'agriculteurs âgés, de textes anciens, ou alors vous avez tout à inventer?
Un peu des deux. Ce qui change par rapport à ce qui était fait il y a 70 ans, par exemple, c'est que bien souvent il y avait des pratiques qui étaient source de biodiversité, qui étaient bonnes pour le milieu, mais qui n'étaient pas conscientisées en tant que telles. Par exemple, la trogne, ici dans le Diois, on voit tous ces mûriers qui taillaient en trogne, donc en gros ça fait un gros tronc très noueux avec des trous partout, plein de cavités, et on venait chercher les branches pour nourrir les vers à soie. Et donc la pratique de la trogne, ça se fait dans toutes les régions agricoles, dans toutes les et pour des soit pour faire du bois biomasse, du fagot ou de la bûche ou pour nourrir le bétail, etc. Et ben ces pratiques-là, c'était pas conscientisé. Le paysan de l'époque se disait pas ah ben ouais avec ça je vais les faire venir les chauves-souris, laisser la place pour que la huppe puisse nicher ou mais toujours est-il qu'on construisait un habitat sur le long terme, un bois plein de trous. Qui faisait que c'était des HLM à biodiversité, quoi. Maintenant, la différence, c'est qu'on conscientise ça. C'est-à-dire qu'on se dit, en fait, cet arbre-là, me remettre à ces pratiques en place, ça a du sens. Ça a du sens pour le milieu, et puis aussi, ça a du sens pour moi, parce que j'ai besoin de ce bois-là pour faire de la biomasse, pour pailler mes cultures, par exemple. J'ai besoin de ce bois-là pour me chauffer. J'ai besoin de ce bois-là pour nourrir mon bétail. Donc, en fait, il y a des pratiques qui étaient très anciennes, très ancrées, qui se sont perdues. Parce qu'en 50 ans, en fait, en rentrant dans une agriculture très productiviste, on a désingué toute une culture, qu'on a regagné. Donc des fois, c'est l'ancien qui est à côté, qui savait comment, qui a une culture de son pays et qui dit « Ah bah oui, ici, on faisait ça, on produisait de telle manière, etc. » qui peuvent nous inspirer. Des fois, c'est des choses à réinventer complètement, notamment toute la partie sur les engrais verts, choses comme ça. Ça, c'est l'agronomie moderne. Il y a une partie de l'agroécologie, c'est des techniques anciennes remises au goût du jour. Et puis, il y a une autre partie, c'est des choses... vraiment réinventé. Alors moi, je suis pas un historien de l'agronomie, j'aurais du mal à vous dire ça c'est réinventé, ça c'est. Mais en tous les cas, c'est une conjonction des deux. Voilà, le progrès d'agriculture, c'est pas que progresser dans le machinisme et dans l'agriculture 2.0. C'est aussi, moi, je pense que c'est plutôt ça. C'est progresser dans la compréhension de son système, de son milieu, la compréhension fine des interactions, des échanges qu'il y a entre les vivants sur mes parcelles et puis la production que je produis, quoi.
Il y a cet aspect de l'autosuffisance alimentaire également. Ça, c'est un sujet auquel l'association Planche travaille. Oui, allez-y. Mais c'était juste pour, en fonction de ce qui est proposé dans l'élevage ou dans l'agriculture, cela permet une interconnexion et de moyens et entre les fermes aussi.
Oui, tout à fait. En fait, nous, ce qu'on croit, c'est que l'agriculture paysanne et sauvage qu'on propose, elle a du sens si elle est liée au territoire. Et dans l'agriculture paysanne, il y a la notion de diversité. Donc l'idée, ce n'est pas d'être monoculture. L'idée, c'est de pouvoir avoir de la diversité sur nos fermes, parce que cette diversité, elle sert le vivant, et puis aussi, elle nous permet de vivre. Et puis aussi, comme on est dans des systèmes qui sont moins intensifs, où il y a moins d'intrants, on va mettre moins d'engrais, on va mettre moins de gasoil, moins de tracteurs, etc. On est des systèmes qui sont à l'hectare, si on réduit à l'hectare, etc., qui sont un peu moins productifs, mais qui... Et donc la manière économiquement de s'en sortir et de trouver un revenu, c'est aussi de vendre notre production locale. Ça a un sens pour le développement local et ça a aussi un sens pour la vie de nos fermes. Au départ, en fait, ce côté alimentation locale, la ferme, au départ, elle s'est montée en rassemblant sur la ferme du Grand Laval, il y avait un petit magasin de producteurs ouvert de deux demi-journées par semaine ou une demi-journée par semaine. Et donc, ils se sont dit, ben, tiens, qu'est-ce qui nous réunit tous, nous, qui apportons un maraîcher, les fruits et les céréales du Grand Laval, un peu de viande, un peu de vin. Voilà, quelques producteurs. En gros, ils se sont dit, bah, tiens, le dénominateur commun, c'est qu'on essaye d'avancer tous sur cette question du vivant. L'association, elle s'est montée à ce moment-là, dans la suite du magasin de producteurs. Et donc, il y a toujours ce truc-là, quand même, de se dire, ben, on est des fermes et on est là pour nourrir le territoire. Et on est là pour avant tout, pour participer à l'autosuffisance alimentaire de notre territoire, etc. Donc ouais, c'est très important de ne pas se... l'idée, c'est pas juste de faire beau, c'est de faire beau et aussi de faire bon et que de donner à manger. Ouais.
Vous organisez certainement des portes ouvertes dans ce réseau de fermes.
Eh ben oui, il y a des visites de fermes qui sont proposées, des opérations un peu ouvertes vers le public. Et donc pour ça, il faut se rapprocher de la, il faut aller sur le site de Fermes Paysannes et Sauvages où les indications sont données. On va bientôt cette année, on met en place des visites sonores sur les fermes. Donc il y a une dizaine de fermes là, ça va de Saint-Péret à Die, à peu près, je crois, qui vont proposer des visites de leurs fermes à des heures différentes de la journée avec des naturalistes et pour s'occuper non pas de ce qu'on voit, mais de ce qu'on entend. Alors, si on le voit aussi en même temps, c'est super. Donc des fois, ça va être le matin, des fois, ça va être le soir. Moi, je vais en faire une chez moi à la maison où je voudrais qu'on dorme sur la parcelle et pour pouvoir avoir pour pouvoir se réveiller à 5 heures du mat et entendre ce qui se passe à 5 heures du matin au mois de mai. Il sera proposé aux gens de s'inscrire. Je pense qu'il y aura sur certaines fermes, ce sera limité en termes de personnes pour que tout le monde puisse, les gens présents puissent bien profiter de la chose. Donc il faut pour avoir l'info là, je pense qu'il faut se rapprocher du site internet qu'on a des fermes paysannes et sauvages.
Quelle est la ferme sur Die ?
Je crois que c'est la ferme de l'Odalie qui a des œufs principalement et puis des petits fruits.
À découvrir sur le site. Sylvain Thévenet, je vous remercie de venir à Erdiwa pour nous parler de ces fermes paysannes et sauvages. Et je vous souhaite une bonne soirée.
C'était un plaisir, merci.
Au revoir.